Bonjour et bienvenue dans ce 23e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle de la sexualité féminine d'un point de vue transgénérationnel. C'est-à-dire que je vais vous apporter des pistes de réflexion au sujet de la transmission de la sexualité féminine de génération en génération. Alors, je vous précise que cet épisode concerne la sexualité féminine hétérosexuelle en Occident, voire même en France, et que ce n'est donc qu'un tout petit angle de vue sur ce sujet si vaste. Je précise aussi que la sexualité est un sujet éminemment personnel, que chaque histoire est différente de l'autre et que si je généralise ici, c'est à des fins pédagogiques, mais il est possible que vous ne retrouviez pas vos propres vécus, ne gardez que ce qui fait sens pour vous. Un petit point d'histoire tout d'abord. À chaque époque, la sexualité a été régie par des normes sociales. Pour retracer très brièvement l'histoire récente de la sexualité féminine, elle a d'abord, dès le Moyen-Âge, été encadrée par le christianisme, qui a considéré que la sexualité était destinée à la reproduction uniquement et dans le cadre du mariage. Le plaisir sexuel a été diabolisé et l'adultère sévèrement condamné, particulièrement pour les femmes. Puis au début du XIXe siècle, ce sont les femmes de la petite bourgeoisie puritaine qui ont repris à leur compte les interdits de l'Église, suivies de près par la médecine, qui dès lors qu'elle s'est intéressée à la sexualité, a posé à son tour des normes, en distinguant ce qui était sain de ce qui était pathologique en termes de sexualité. La masturbation, l'homosexualité et les rapports sexuels en dehors d'une visée procréative ont été désignés comme des déviances sexuelles. Pour résumer, depuis des siècles, hormis quelques périodes de libertinage qui n'ont concerné que très peu de femmes, il existe toutes sortes d'interdits autour de la sexualité féminine. Interdit de plaisir, interdit de masturbation, interdit de se regarder nu dans un miroir, interdit d'avoir des relations avant le mariage, qui ont fait de nos ancêtres des oies blanches ou des vierges effarouchées, pour reprendre les termes du psychanalyste transgénérationnel Didier Dumas, des femmes totalement incapables, ne serait-ce que de penser leur sexualité. La libération sexuelle amorcée à la fin des années 60, notamment avec l'arrivée de la contraception en 67 et la légalisation de l'avortement en 75, qui a permis aux femmes de passer d'une sexualité de reproduction à une sexualité de plaisir, a pu faire croire aux femmes qu'elles s'étaient réappropriées leur sexualité, que c'en était fini des carcans de leur mère ou de leur grand-mère, d'une sexualité taboue, parfois subie et honteuse. Mais c'était sans compter que nous portons dans notre psychisme les traces des croyances et des émotions non dites des générations précédentes, et que le processus de libération des tabous et interdits autour de la sexualité féminine prend du temps. Pour le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier, les femmes payent encore aujourd'hui la condition féminine de leurs ancêtres. C'est-à-dire que bien que le discours de la société soit très libéré sur la sexualité féminine, le psychisme féminin reste empreint des émotions et des croyances des générations précédentes. Au niveau sociétal, c'est ce que confirme également l'analyse de la philosophe Camille Froidevaux-Métry. Ce premier mouvement de libération permis par la contraception a été d'abord et avant tout une libération de la maternité, et s'il constitue une véritable mutation anthropologique, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la femme n'est plus obligée d'être mère, il ne s'est pas accompagné d'une libération sexuelle dans l'intimité. Elle estime que la bataille de l'intime n'a réellement commencé que dans les années 2010, et qu'elle devrait permettre, je la cite, « d'en terminer avec des siècles de représentation d'un corps féminin disponible et offert », des siècles d'interprétation de la sexualité féminine dans les termes de la passivité et de la soumission, des siècles de déconsidération de la génitalité féminine et de minoration des atteintes subies dans ce domaine. À l'époque de nos grands-mères, arrière-grand-mères et au-delà, la sexualité de la femme n'était donc pas un sujet et la question du plaisir féminin encore moins. Pour beaucoup de femmes, pas toutes heureusement, la sexualité se résumait à un devoir conjugal et certaines redoutaient même les rapports de peur d'une grossesse supplémentaire alors que leur corps était déjà usé par les nombreuses maternités. Comment dans ces conditions transmettre à leur fille l'image d'une sexualité heureuse? Jusqu'à l'arrivée de la contraception, il existait une confusion entre le féminin et le maternel. Les femmes de ma génération ne savaient pas que ce n'était pas la même chose d'être une mère que d'être une femme, nous dit la gynécologue Danielle Flomenbaum dans son ouvrage « Femmes désirées, femmes désirantes ». La construction sexuelle de la femme se fait par identification à sa mère, et bien sûr, si la mère ne se pense pas comme un être sexué, il en va de même pour la petite fille qui devient femme. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur la transmission du féminin. On peut voir aujourd'hui des traces de cette confusion entre le maternel et le féminin chez les femmes dont la libido s'effondre dès lors qu'elles sont devenues mères. À cette identification lacunaire de nos mères et de nos grands-mères auprès de leur propre mère, s'ajoute une absence de transmission. Absence de transmission sur le fonctionnement du corps de la femme. Bien souvent, les jeunes femmes n'osaient pas poser de questions et grandissaient dans l'ignorance qu'elles avaient un sexe. Absence de transmission aussi, bien sûr, sur la sexualité, un sujet tabou dont les mères ne parlaient pas à leurs filles, qui pour certaines, pas toutes heureusement, découvraient la sexualité lors de leur nuit de noces avec un homme qui lui-même connaissait peu le corps de la femme et se souciait très peu de son plaisir, puisqu'il n'avait même jamais appris qu'une femme peut avoir du plaisir. Ce manque de transmission de mère en fille, cet interdit de penser et de parler la sexualité féminine, a perduré jusqu'à une époque très récente. Ce qui fait dire à Danielle Flomenbaum, dans son ouvrage écrit en 2006, que toutes les inflammations du sexe féminin et de l'appareil urinaire, vulvite, vaginite, cystite, témoignent de l'absence d'information sexuelle dans laquelle les femmes ont été élevées. Dans certains cas, lorsque des mots sont posés sur la sexualité, ce sont les empêchements des mères qui sont transmis aux filles. De nombreuses femmes ont entendu leur mère évoquer la sexualité à demi-mot, par des phrases du type « je suis pas trop portée sur la chose »,« c'est pas trop mon truc » ou « ferme les yeux, attends que ça passe » ou encore « j'ai fait mon devoir ». On est bien loin de la notion de plaisir. Difficile de se construire une sexualité heureuse et épanouie dans ce discours, d'autant que les loyautés aux femmes de la famille sont bien souvent à l'œuvre et peuvent venir interdire de prendre du plaisir là où les générations précédentes n'ont vécu que de la contrainte, voire même de la souffrance. Dans certaines familles, c'est une transmission autour de la sexualité teintée de honte et de culpabilité qui prend le dessus, avec des phrases qui se répètent dans la famille comme « Ah, celle-là, c'est une vraie Marie, couche-toi là !» ou « Eh ben, elle a pas honte, celle-là !» voire même des mimiques ou des exclamations de dégoût devant des scènes sexuelles dans un film regardé en famille. Autant de petites phrases que la fillette puis la jeune fille captent et qui lui feront croire que la sexualité féminine est sale ou honteuse. Et même quand le dégoût ou le rejet de la sexualité n'est pas directement exprimé, il se transmet par le mécanisme des transmissions invisibles. Je vous renvoie à l'épisode sur ce sujet. À l'inverse, dans d'autres familles, mais c'est un phénomène plus récent qui me semble lié à l'émergence des couples monoparentaux, certaines mères prennent leur fille pour leur copine et confidente et lui racontent les détails de leur vie sexuelle. Cette confusion des places peut générer de fortes angoisses à leur fille et créer des blocages dans sa sexualité. Et l'on voit bien là que la transmission autour de la sexualité est une question de dosage, la carence comme l'excès pouvant causer des troubles de la sexualité plus ou moins importants. Mais attention, ici encore, les mêmes causes n'auront pas les mêmes effets d'une femme à l'autre. La sexualité féminine peut aussi être profondément entravée par les mémoires d'abus sexuels subis par les femmes des générations précédentes. Je précise que j'utilise ici le terme d'abus sexuel, qui est parfois sujet à controverse, pour désigner toute forme de violence sexuelle, viol, attouchement, exhibitionnisme, voyeurisme, commis par violence ou séduction au sein de la famille ou par des personnes extérieures. À ce sujet d'ailleurs, tous les sexothérapeutes s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de gradation possible des violences sexuelles en termes de conséquences sur le psychisme. Toute agression d'ordre sexuel, qu'il s'agisse d'un viol, d'un attouchement, d'un acte d'exhibitionnisme ou de voyeurisme, impacte gravement et durablement le psychisme de la victime. Dans les familles où la mère ou la grand-mère a été victime d'un abus sexuel, les transmissions autour de la féminité et donc de la sexualité sont bien sûr teintées de peur. Interdit d'être une femme, je vous en ai parlé dans l'épisode sur la transmission du féminin, évitement des hommes, peur de la sexualité, qui se transmet de manière visible par des phrases prononcées sans explication, méfie-toi des hommes, ne t'étonne pas s'il t'arrive quelque chose si tu sors habillée comme ça, voire ne reste pas seule avec ton père. mais qui se transmet aussi de façon beaucoup plus invisible lorsque la petite fille observe par exemple que sa mère manifeste un dégoût pour son propre corps. Au-delà de cette transmission teintée de peur et de refus de la féminité, les non-dits et secrets autour d'abus sexuels subis par les femmes des générations précédentes créent des fantômes, au sens psychanalytique du terme, je vous renvoie à l'épisode sur les secrets de famille, c'est-à-dire des émotions héritées des générations précédentes qui viennent parasiter la sexualité et qui peuvent se manifester par une difficulté à vivre sa féminité, un sentiment d'être sale, une culpabilité inexpliquée à ressentir du plaisir dans la relation sexuelle, des phobies autour de la sexualité, ou même des troubles de la sexualité comme le vaginisme, des douleurs pendant les rapports ou l'anorgasmie. Dans son petit traité de sexo-analyse transgénérationnelle, l'analyste transgénérationnelle et sexothérapeute Thierry Bunas évoque les mémoires d'abus sexuels dans les générations précédentes comme une possible cause de certains troubles sexuels féminins qui seraient, je le cite, des mots d'ordre en soi, des loyautés ou des mandats, la dynamique d'un fantôme transgénérationnel qui dit « rien ne passe par là, plus jamais d'intrusion, plus jamais ça ». De manière plus générale, les mémoires d'abus sexuels dans les générations précédentes peuvent créer une peur de l'homme, un rejet de l'autorité, une peur globale de l'intrusion, des difficultés avec le toucher, des cauchemars répétitifs. Ces mémoires d'abus peuvent se manifester dès l'enfance, c'est ce que montre très bien Bruno Clavier dans son livre « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents », ou être réveillés à l'adolescence, à un âge anniversaire, en cas de violence obstétricale, ou encore à l'occasion d'une violence sexuelle vécue soi-même. Dans ce cas, l'effet d'un traumatisme sur la victime peut être décuplé par la charge émotionnelle héritée des traumatismes vécus par les femmes de sa lignée. C'est ce qu'on appelle l'après-coup transgénérationnel. Attention toutefois, on sait aujourd'hui que de nombreuses victimes d'abus sexuels souffrent d'amnésie traumatique. Les symptômes décrits ici peuvent aussi être des symptômes de viol, d'attouchement ou toute forme de violence sexuelle vécue par la personne elle-même, dont elle ne se souvient pas. Car malheureusement, les psychogénéalogistes et psychanalystes transgénérationnels constatent souvent que lorsqu'ils sont tués, les abus sexuels se répètent de mère en fille, de génération en génération, très souvent au même âge, ce qui est un des effets transgénérationnels des non-dits et secrets de famille. L'absence d'éducation sexuelle, la mauvaise connaissance ou l'image négative du corps féminin, la culpabilisation du plaisir et les mémoires d'abus, qui tous prennent racine dans le transgénérationnel, peuvent donc créer des troubles de la sexualité. Mais attention, si les aspects transgénérationnels peuvent apporter un éclairage à certaines difficultés, les troubles de la sexualité féminine sont le plus souvent multifactoriels. C'est-à-dire que les causes sont à chercher à la fois dans la vie de la personne, son enfance, ses liens précoces à sa mère qui forgent sa sensualité, des abus ou carences affectives précoces ou des maltraitances physiques, l'adolescence et les abus ou violences sexuelles éventuelles, ainsi que la dynamique du couple elle-même, bien sûr. Alors que faire si cet épisode vous a parlé et que vous vous sentez bloqué dans votre sexualité par des verrous transgénérationnels ? Un accompagnement, seul ou en couple, avec un ou une sexothérapeute vous permettra d'échanger à ce sujet, d'explorer les différentes causes de vos troubles et de vous libérer. Il peut être accompagné par d'autres approches visant à réinformer le corps, comme le shiatsu par exemple. L'accompagnement en psychogénéalogie complète ces approches en permettant d'identifier le contexte familial et sociétal qui a pu bloquer la sexualité, de mettre des mots sur les croyances familiales transmises autour de la sexualité, et d'identifier les loyautés familiales à l'œuvre pour s'en affranchir. Pour celles d'entre vous qui ont des filles, ce travail sur votre propre sexualité vous permettra non seulement de vous libérer de vos propres blessures et de vos entraves transgénérationnelles, mais aussi de transmettre à vos filles les clés d'une sexualité libérée et épanouissante. Pouvoir parler des abus subis permet d'éviter la répétition et mettre des mots sans tabou sur la sexualité féminine, y compris sur ce qui a pu faire défaut chez vous, c'est permettre à vos filles de se libérer de vos empêchements et de vivre une sexualité épanouissante. Comme nous le dit le psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier, la sexualité est une telle question de transmission et de répétition que plus elle en saura sur ce qu'a vécu et ressenti sa mère, moins elle en reproduira les lacunes. Alors attention, cela ne veut pas dire raconter ses histoires sexuelles en détail à sa fille, mais plutôt pouvoir échanger sans tabou autour du corps féminin, de la question du plaisir féminin et de transmettre des valeurs positives autour de la sexualité. Mais malgré une apparente liberté de parole, les articles, ouvrages et podcasts qui fleurissent autour de la sexualité féminine, du clitoris, de la masturbation, il peut être difficile pour une mère d'aborder des sujets qu'elle n'a elle-même pas abordés avec sa propre mère. Peut-être que le partage d'un podcast ou d'une lecture peut être l'occasion de lancer le dialogue autour de cette question. Et pensons à éduquer nos garçons et sensibiliser nos hommes en nous battant notamment contre le sexisme ordinaire concernant la sexualité des femmes. J'entends encore très souvent des jugements sur les femmes qui choisissent d'avoir plusieurs partenaires ou qui ont des relations sexuelles dès le premier soir. Dans l'inconscient collectif subsistent des traces de la croyance qu'une femme qui vit une sexualité libérée est une salope, qu'il ne faut pas laisser passer si nous voulons permettre à nos filles de s'épanouir dans leur vie sexuelle et à nos garçons de vivre la sexualité comme un partage de plaisir. Cette évolution du regard masculin sur la sexualité féminine me semble absolument indispensable, sans quoi je me demande si l'hypersexualisation de la femme que l'on peut constater dans certains médias ou sur les réseaux sociaux ne risque pas de contribuer à renforcer l'enfermement de la femme comme objet sexuel, plutôt que de permettre la libération de son corps, de son désir et de sa sexualité. Le mot de la fin, pour vous rappeler que vivre une sexualité libérée, c'est avant tout vivre une sexualité qui vous correspond, à vous, en termes de rythme, de pratique, de partenaire. Il n'y a pas de normalité, juste savoir s'écouter et se respecter. Voilà pour ce rapide tour d'horizon des aspects transgénérationnels de la sexualité féminine. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous conseille la lecture du livre « Femmes désirées, femmes désirantes » de Danielle Flommenbaum, qui en fonction de votre âge vous éclairera sur la sexualité de vos mères ou de vos grands-mères. À noter aussi le passionnant épisode du podcast Culture 2000 sur l'histoire de la sexualité, dont je mettrai le lien en description de cet épisode, avec l'ensemble des ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.